Dans son ouvrage « Mes pensées », Montesquieu a écrit « Quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant soi, il faut les faire suivre ». A priori, cette pensée semble sublime, mais il faut toujours se méfier des affirmations catégoriques à l'emporte-pièce. J'aimerais bien pouvoir diviser tous les domaines de la vie en noir ou blanc et posséder un petit pense-bête qui aurait réponse à tout. Mais le plus souvent, on baigne dans le gris. Le flou artistique et les solutions aux problèmes qui se posent à nous coulent rarement de source, et nos décisions sont le plus souvent neutres et grises, ni bien ni mal. L'apôtre Paul était un conducteur d'hommes hors pair, et pourtant il ne se conformait pas à la brillante affirmation de Montesquieu. Il chassait les hommes devant lui, les hérétiques en particulier, et il faisait en sorte que d'autres, les disciples de Jésus-Christ, le suivent. Paul était un homme ordinaire et qui ne payait pas de mine. Un auteur du second siècle le décrit comme étant plutôt petit. C'est ce que Paul veut dire. La tête dégarnie, les jambes arquées, les sourcils qui se touchent, le nez en crochet, mais en bonne forme physique et très affable. Cet auteur écrit aussi « Tantôt il ressemblait à un homme, tantôt il avait le visage d'un ange. » Et certains de ses adversaires disaient de lui « Ses lettres sont sévères et fortes, mais en personne il est faible et sa parole est méprisable. » Quelle qu'ait pu être son apparence physique, son envergure spirituelle est insurpassable. C'est lui qui répandit la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde païen de l'Empire romain. Je commence à lire le premier chapitre de la première épître qu'il adresse à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de notre Dieu Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Verset 1. Dès le début de cette lettre, et afin que tout le monde sache bien avec quelle autorité il parle, Paul met en avant son apostolat. Ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime ainsi. Aux Éphésiens, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Ici, il met en avant qu'il est apôtre par ordre de Dieu, alors qu'aux Éphésiens, il dit que c'est par la volonté de Dieu. Quelle est la différence entre l'ordre de Dieu et sa volonté? Il n'y en a guère, bien que les deux termes ne soient pas synonymes. Tous les commandements qu'on trouve dans les Écritures révèlent quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Par exemple, ailleurs, Paul écrit « Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances ». Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Cependant, la volonté de Dieu qui transparaît dans les textes sacrés, au travers d'exhortations, d'encouragements, de mises en garde, n'est pas toute sa volonté, loin s'en faut. Celle-ci est beaucoup plus vaste que la somme de tous les commandements que nous avons dans les Écritures. Ceci dit, nous savons aussi que ce n'est pas en obéissant à tout ce que Dieu demande que l'homme acquiert le statut de juste. Ceci est important à rappeler parce que, intuitivement, beaucoup pensent que s'ils essayent de suivre les 10 commandements de Moïse ou les préceptes que Jésus a donnés dans le sermon sur la montagne, ils sont en règle avec Dieu. Ce n'est pas que tous ces préceptes, et il y en a des centaines, ne sont pas bons. Au contraire, un peu plus loin dans ce chapitre, Paul écrit « Nous savons que la loi est bonne ». Mais à condition d'être utilisé en accord avec son but, ou pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Dans une autre épître, Paul dit que la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Parce que la loi est parfaite, elle exige une obéissance absolue de la part des hommes en qui, comme le dit Paul, le bien n'habite pas. Mais alors, quel est le but de la loi de Moïse? Les commandements de Dieu révèlent d'une part la volonté de Dieu et d'autre part que l'homme est incapable de leur obéir. Il s'ensuit que pour être sauvé, il fallait un autre moyen que l'obéissance à une loi parfaite et absolument bonne. Considérer la loi selon ses critères, c'est comprendre son but et en faire bon usage. Dieu a glorifié son nom en manifestant sa justice absolue tout en déclarant juste celui qui place sa confiance en Jésus. Lors de son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul est entré dans la synagogue de la ville d'Antioche en Pisidie et a dit aux Juifs « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à Jésus-Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Tous ces gens religieux essayaient d'obéir méticuleusement à la loi de Moïse, mais ils ne pouvaient pas en tirer la moindre justice personnelle parce que la loi ne peut que condamner ceux qui cherchent à lui obéir dans le but d'acquérir une justice personnelle. La loi n'a pas été donnée pour sauver, mais pour révéler la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Le moyen de salut est par la croix du Christ. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus seul et non la loi permet d'accéder à Dieu. Quand dans d'autres épîtres, Paul dit qu'il est apôtre selon la volonté de Dieu, c'est exact. Mais à Timothée, il précise qu'il en a reçu l'ordre de Dieu. En d'autres mots, il n'a pas vraiment eu son mot à dire dans cette affaire. Le verbe traduit par « ordre de » était utilisé pour un décret royal qu'il n'était pas possible de contester. Pourtant, au vu de son arrière-plan religieux, Paul avait de bonnes raisons de ne pas s'engager dans l'apostolat. Il aurait pu faire valoir qu'il n'avait jamais rencontré Jésus et donc pas participé à son ministère comme les 12 autres apôtres, qu'il n'en était pas digne parce qu'il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ avec la hargne d'un fou furieux. Mais c'est Dieu qui décide et il avait ordonné à Paul d'être son apôtre, c'est-à-dire son prophète, sous le régime de la grâce. Comme Paul était apôtre, ses écrits sont inspirés par le Saint-Esprit et tout son ministère a l'imprimature de Dieu. Sachant qu'il parlait en son nom, que ce soit dans une synagogue à Athènes au milieu de philosophes grecs ou à Corinthe devant un groupe de païens corrompus, Paul pouvait en toute assurance proclamer la bonne nouvelle sans se laisser intimider par les contredisants. Il était en mission aux ordres de Dieu. Il n'avait pas été mandaté par les hommes, mais par le Christ ressuscité lui-même qui lui donna son autorité apostolique. Le prophète Jérémie était d'un caractère bien différent de l'apôtre Paul, mais comme lui, il fut persécuté par son peuple. De tempérament réservé, s'il en avait eu le loisir, il aurait volontiers mis en pratique l'adage « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais l'Éternel ne lui a pas demandé son avis et a fait de lui le prophète au cœur brisé. Quand il annonçait le jugement de Jérusalem, il crachait des flammes, mais en même temps, elles lui brûlaient les entrailles. Cependant, il a obéi parce que, comme Paul, il était un soldat en mission pour Dieu. Paul dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par ordre de notre Dieu Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Quelqu'un a fait la remarque brillante que le christianisme est une religion de pronoms personnels. Les croyants n'adorent pas une divinité neutre et lointaine, mais un Dieu intime. Appeler Jésus-Christ notre espérance est un peu curieux, parce qu'en général, dans les Écritures, l'espérance est en Dieu et Jésus-Christ est appelé Sauveur. Cette interchangeabilité entre le Père et le Fils et le fait que Paul a reçu un ordre qui émanait à la fois du Père et du Fils montre bien qu'ils sont un et égaux. L'appellation « Dieu Sauveur » avec les deux mots juxtaposés n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Mais à 4 autres reprises dans les épîtres pastorales, nous trouvons l'expression « Dieu, notre Sauveur ». C'est vrai que je coupe les cheveux en 4, mais c'est intéressant tout de même. Dieu Sauveur est un enseignement de l'Ancien Testament parce que c'est sa nature. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu est la source du salut et il l'avait prévu de toute éternité. Le plan de salut a été mis en œuvre par Jésus-Christ, notre espérance. Dans une autre épître, Paul dit « Christ en vous est l'espérance de la gloire ». L'espérance étant Jésus-Christ et en Dieu. Les croyants ont confiance en l'avenir parce que dans le passé, Jésus est mort pour les sauver et dans le présent, il est vivant afin de les garder pour le salut. Et un jour, il les prendra auprès de lui. Après s'être présenté, Paul mentionne son correspondant. Il salue Timothée, son véritable enfant, dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. Verset 2. Timothée veut dire celui qui honore Dieu. Il fut ainsi nommé par sa mère Eunice et grand-mère Loïs qui avaient foi en l'Éternel avant qu'elles ne placent leur confiance en Jésus-Christ. Elles enseignèrent l'Ancien Testament à Timothée depuis sa tendre jeunesse. Cette famille habitait à Lystre, en Asie mineure, la Turquie actuelle. C'est aussi là que Paul fut lapidé. Peut-être est-ce également à cette occasion que l'apôtre a eu cette expérience extraordinaire dont il parle ailleurs quand il est allé au ciel et a entendu des paroles indicibles. Comme cette lapidation a dû faire pas mal de bruit, il est possible qu'elle ait contribué à la conversion de Timothée à Jésus-Christ. Après avoir accepté Jésus dans sa vie, Timothée devint le disciple de Paul. Je lis le passage. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. Il l'emmena donc et le fit circoncire par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec. Comme sa mère était juive, Timothée avait ses entrées dans deux cultures. Quand Paul écrit cette lettre, cela faisait 15 ans que Timothée était son disciple, son ami et son fidèle collaborateur en toutes circonstances, même dans les coups durs. Soit il l'accompagnait, soit il accomplissait une mission pour l'apôtre. Timothée était toujours disponible et l'homme du moment. Quand une église était en difficulté, et que Paul ne pouvait pas se rendre sur place lui-même, il envoyait Timothée. D'ailleurs, quand il reçoit cette lettre, il se trouve à Éphèse pour combattre les hérétiques qui ont infiltré l'assemblée. Alors que l'apôtre est en prison, il écrit à une église « J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. » Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne, car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves, comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Fin de citation. Paul appelle Timothée son véritable enfant dans la foi, le donnant en exemple. Timothée et Tite sont les seuls à être appelés ainsi. De cette désignation, on peut déduire au moins quatre caractéristiques concernant Timothée. Premièrement, sa foi en Jésus-Christ était authentique. Vers la fin de cette épître, l'apôtre l'appelle homme de Dieu et lui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Dans la deuxième épître, Paul dit que la foi de Timothée est sincère. Deuxièmement, la vie de Timothée était marquée par l'obéissance à Dieu et à l'enseignement des Écritures. Jésus a dit à ceux qui voulaient le suivre, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Dans une autre épître, Paul écrit « Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Ceux qui mettent en pratique toutes ces exhortations et qui ont le sincère désir d'obéir à Dieu découvriront les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Troisièmement, Timothée était un humble serviteur. Il faisait tout ce que Paul lui demandait. Il a même accepté de se faire circoncire alors qu'il n'était plus un enfant, mais déjà un jeune homme. Parce qu'il savait que cet acte rituel lui ouvrirait des portes pour mieux servir l'apôtre et Dieu. Il ne refusait aucune mission que lui confiait Paul, même si elle ne lui convenait pas ou qu'elle était dangereuse. Quatrièmement, Timothée avait le courage de ses convictions. Les poissons morts se laissent emporter par le courant, mais les vivants le remontent. Des convictions inébranlables sont le fruit de la maturité spirituelle et d'une bonne connaissance des Écritures. Bien que timide de nature, Timothée était prêt à défendre la foi. Il accepta de rester à Éphèse sur la demande de l'apôtre afin de lutter contre les faux prophètes. Plus loin dans l'épître, Paul l'exhorte disant « Combat le bon combat », comme je l'ai déjà dit. L'apôtre commence sa lettre à son disciple Timothée en lui disant « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur ». A priori, cette salutation est similaire à celle des autres épîtres où Paul utilise toujours les deux mots « grâce » et « paix ». Mais ici, ainsi que dans la seconde lettre à Timothée, il ajoute la miséricorde. La grâce de Dieu est une faveur qu'il nous fait en nous affranchissant des conséquences spirituelles et éternelles du péché. Dans l'Ancien Testament, la miséricorde de Dieu signifiait aussi sa grâce. Le système lévitique des sacrifices d'animaux transformait le trône du Dieu trois fois saint et siège d'une justice implacable en un lieu où l'Israélite pouvait bénéficier de la miséricorde divine qui le préservait du jugement divin. Quand je viens à Dieu, je ne veux pas qu'il exerce sa justice envers moi, sinon je serai immanquablement condamné. Ce dont j'ai besoin et ce que je désire est qu'il me fasse grâce. Dieu est miséricordieux envers tous les hommes, même envers les pires mécréants qui le blasphèment. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, les bons et les méchants. Même les pécheurs notoires jouissent des biens de ce monde car ils sont pour tous. Dans sa miséricorde, Dieu est prêt à recevoir tous ceux qui viennent à lui. Il écoute la prière du petit enfant et du désespéré, celui qui accepte humblement de reconnaître ses fautes est pardonné et reçoit la vie éternelle parce qu'il est mis au bénéfice de sa grâce. Mais celle-ci n'est pas automatique. La grâce de Dieu, voyez-vous, est comme de l'argent que je peux avoir sur un compte qui dort à la banque. Il ne me sert à rien jusqu'à ce que je fasse un chèque. La grâce de Dieu est comme un compte céleste dont l'avoir serait infini. Seulement pour en bénéficier, je dois utiliser le chéquier de la foi. Parce que Dieu est miséricordieux, n'importe qui peut tirer un chèque de la foi et il est gratuit. En fait, je ne peux rien donner en échange, car ma bonne volonté ou mes meilleures œuvres sont pour lui comme des torchons souillés. Et je pèse mes mots. Paul écrit « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données ». La paix est la conséquence de la grâce et de la miséricorde divine. Cette paix est à la fois l'harmonie retrouvée entre Dieu et le pécheur repentant et la tranquillité intérieure du cœur et de l'âme de celui qui se confie en lui. À deux reprises, dans les deux premiers versets de ce premier épître, Paul associe Dieu et Jésus-Christ qui prennent ensemble la même initiative. Précédemment, il dit que c'est sur l'ordre des deux personnes de la Trinité que Paul a été fait apôtre. Ici, c'est Dieu et Jésus-Christ qui donnent la grâce, la miséricorde et la paix. Ces liens entre les deux personnes de la Trinité montrent bien que pour Paul, la divinité de Jésus et son égalité avec le Père ne faisaient aucun doute. Si Paul appelle Dieu le Père, c'est parce qu'il est le Père céleste de tous ceux qui ont fait confiance en Jésus-Christ. En plaçant leur foi en lui, ils sont nés dans la famille de Dieu. Avant que Saul de Tarse ne devienne l'apôtre Paul, il œuvrait corps et âme pour l'avancement du judaïsme. Mais il ne pouvait pas appeler Dieu son Père. Par contre, depuis sa conversion, il a obtenu ce privilège qui n'appartient qu'à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Paul appelle Jésus « Seigneur » et à juste titre, car à ses disciples, il a dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis ». Il est le Seigneur de gloire, le chef et la tête de l'Église qui est son corps. Mais appeler Jésus « Seigneur » ne suffit pas, car lui-même a dit à ceux qui le suivaient, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup de gens religieux se disent très occupés au service de Dieu. Ils font des tas de choses, soi-disant pour lui. Ils sont comme des termites en plein travail qui n'arrêtent jamais de creuser des galeries. Mais quand ils comparaîtront devant Dieu, ils recevront le choc de leur existence. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Fin de citation. Placer sa confiance dans ses œuvres, même très bonnes, et dans ses rites religieux, ce n'est pas s'assurer le ciel, mais c'est signer sa condamnation éternelle.